Nous sommes le 1er juin, bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Kim Hong-joo et de Baptiste Morigal.
À la une aujourd'hui, participation record au vote anticipé pour les élections locales et législatives partielles du 3 juin et dernière ligne droite avant le scrutin officiel. Nous reviendrons également sur l'explosion meurtrière survenue sur un site de l'entreprise de défense Hanwha Aerospace à Daejeon qui a fait au moins 5 morts. Et puis en fin de journal, la Corée du Sud affiche sa volonté de renforcer ses relations avec l'Afrique et envisage l'organisation d'un sommet Corée-Afrique en 2029.
Ouvrons ce journal avec un record de participation au vote anticipé pour les élections locales et législatives partielles du 3 juin.
23,51%, c'est le taux de participation au vote anticipé communiqué par la Commission électorale nationale. Plus de 10,4 millions d'électeurs ont ainsi voté vendredi et samedi dernier, un record pour des élections locales et législatives partielles en Corée du Sud. Le précédent avait été établi en 2022. À l'époque, le taux de participation au vote anticipé avait atteint 20,62%.
Où est-ce que les électeurs se sont le plus mobilisés?
Eh bien, c'est dans le Jeolla du Sud avec 38,95% de participation, devant le Jeolla du Nord avec 35,05%. La ville de Gwangju et la province du Gangwon suivent également avec des taux supérieurs à 27%. À l'inverse, plusieurs grandes agglomérations affichent une mobilisation plus faible. Daegu enregistre le taux le plus bas avec 18,65% devant la province du Gyeonggi, Busan et Incheon. À Séoul, la participation au vote anticipé s'est établie à 23,84%.
Fort de cette participation record au vote anticipé, les principaux partis politiques multiplient désormais les derniers appels aux électeurs.
Effectivement, à 2 jours du scrutin officiel, les dirigeants des principales formations politiques ont lancé leur ultime offensive électorale à travers le pays. À Chonan, Chung Chang-le, président du comité électoral du Minju, a appelé les électeurs à sanctionner par leur vote les forces anticonstitutionnelles et antidémocratiques, s'appuyant sur la popularité actuelle du président Lee Jae-myung, il a également plaidé en faveur d'une gouvernance stable. Les responsables du Minju se sont également rendus dans les régions de Chungcheong et de Gyeongsang afin de mobiliser leurs électeurs avant mercredi. De son côté, le Parti du pouvoir du peuple a organisé à l'Assemblée nationale une conférence de presse intitulée « Appel à la nation ». Son co-président de campagne Song Eun-sok a reconnu les insuffisances de son parti, déclarant, je cite, « Nous n'avons pas été à la hauteur, nous en tirons les leçons ». Il a néanmoins exhorté les électeurs à préserver la République de Corée et à contenir ce qu'il qualifie de pouvoir arrogant. Par ailleurs, Jang Dong-hyuk s'est rendu aujourd'hui à Jeju puis à Ulsan afin de convaincre ses derniers électeurs indécis.
Nous en venons à présent à cette explosion sur un site de l'industrie de défense à Daejeon qui a fait 5 morts.
L'explosion s'est produite vers 11h ce matin sur un site de Hanwha Aerospace situé dans le district de Yusong à Daejeon. Les pompiers ont déclenché le niveau 1 d'intervention et mobilisé plus d'une centaine de secouristes ainsi que 44 véhicules. L'incendie a été maîtrisé peu avant midi et selon les autorités, l'accident a fait au moins 5 morts et 2 blessés graves. Le site concerné est spécialisé dans la recherche et la production de systèmes de propulsion destinés aux missiles guidés ainsi qu'au secteur spatial et aéronautique. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit sur ce complexe industriel. 2 explosions impliquant des propulseurs de fusées y avaient déjà eu lieu en 2018 et en 2019, provoquant la mort de 8 personnes.
Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'instant inconnues.
La police et les pompiers privilégient notamment l'hypothèse de l'explosion d'un propulseur, mais les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes précises ainsi que l'étendue des dégâts matériels.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Dans l'actualité également, la Corée du Sud a réaffirmé sa volonté de renforcer à la fois sa défense nationale et ses alliances au niveau international.
Oui, lors de la séance plénière du dialogue de Shangri-La à Singapour, le ministre sud-coréen de la Défense Han Kyu-bak a estimé que la sécurité de la péninsule coréenne avait désormais des répercussions bien au-delà de la région. Il a notamment évoqué la politique des deux États hostiles menée par la Corée du Nord, le développement continu de ses capacités nucléaires et balistiques, ainsi que le renforcement de sa coopération militaire avec la Russie. Dans ce contexte, le ministre a confirmé sa volonté de renforcer la dissuasion élargie assurée par les États-Unis, tout en développant davantage les moyens autonomes de défense du pays. Il a notamment cité le système à trois axes composé du dispositif de frappe préventive Kill Chain, du système antimissile national KMD et du plan de représailles massives KMPR. Selon lui, ses capacités pourront également s'appuyer sur les avancées sud-coréennes dans les domaines de l'intelligence artificielle, des systèmes de combat autonomes et des technologies spatiales.
En marge de ce forum sécuritaire, les discussions avec les États-Unis ont également porté sur plusieurs projets stratégiques.
Han Yubak a en effet rencontré des délégations du Sénat et de la Chambre des représentants américains afin d'évoquer la situation sécuritaire dans la péninsule et l'avenir de l'alliance bilatérale. Il a notamment sollicité le soutien du Congrès concernant le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre, le développement de sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que la coopération dans la construction navale militaire. Le ministre a indiqué que des discussions techniques sur le projet de sous-marin nucléaire devraient débuter dès la semaine prochaine.
Enfin, Séoul et Tokyo ont évoqué un possible accord de soutien logistique entre leurs armées.
Le ministre sud-coréen s'est également entretenu avec son homologue japonais au sujet d'un éventuel accord d'acquisition et de services croisés, plus connu sous l'acronyme ACSA. Un tel accord faciliterait le partage de ressources logistiques comme le carburant, les vivres ou les munitions entre les forces armées des deux pays. Han Kyu-bak a toutefois souligné qu'un tel projet nécessitait l'adhésion des opinions publiques sud-coréennes et japonaises, appelant donc à la prudence sur ce dossier sensible.
Bonne nouvelle sur le plan économique, les exportations sud-coréennes ont atteint un niveau record en mai.
Effectivement, selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources, elles se sont élevées à 87,75 milliards de dollars, en hausse de 53% sur un an, et le niveau le plus élevé jamais enregistré pour un mois de mai. Les ventes de puces à l'étranger ont atteint un record de 37,16 milliards de dollars, dépassant la barre des 30 milliards pour le troisième mois consécutif. Les exportations d'ordinateurs ont également bondi, grâce à la forte demande liée aux serveurs d'intelligence artificielle. Les produits pétroliers ont eux aussi progressé, portés par la hausse des cours du brut dans le contexte des tensions au Moyen-Orient. Mais à l'inverse, les exportations automobiles ont reculé de près de 6%.
Et pour terminer ce journal, la Corée du Sud souhaite approfondir son partenariat avec les pays africains.
Le ministre des Affaires étrangères Cho Yeon a affirmé aujourd'hui la volonté de Séoul de renforcer sa coopération avec le continent africain. Il a notamment annoncé l'ouverture de discussions en vue de l'organisation d'un sommet Corée-Afrique en 2029. Cette déclaration a été faite lors de la réunion ministérielle Corée-Afrique, organisée à l'initiative du gouvernement sud-coréen, rassemblant les 54 pays du continent, ainsi que 4 organisations régionales. Les discussions portent notamment sur le défi lié aux chaînes d'approvisionnement, à l'énergie et à la sécurité alimentaire. Dans son discours d'ouverture, Cho Yeon a souligné la nécessité d'une coopération étroite face à ces enjeux mondiaux. Il a également indiqué que le président Lee Jae-myung accordait une importance particulière au développement des relations avec l'Afrique. Le chef de l'État doit justement recevoir dès demain dans la capitale sud-coréenne une vingtaine de ministres africains afin de poursuivre le dialogue et d'explorer de nouvelles pistes de coopération entre la Corée du Sud et le continent africain.
Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, Séoul au jour le jour avec Valentine Philippe. Très bonne journée sur KBS World Radio.